Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
À l'occasion de cette 23e rencontre de 10, je suis avec Joël Labbé, intervenant sur ce jeudi en début d'après-midi à 14h pour la séance du film débat Zut, un film qui éveille sur les actions à mener pour lutter contre les pesticides. Zut, c'est l'acronyme de Zone Urgente à Transformer. Et ce film, il a pour but de nourrir la réflexion sur la nécessité d'accélérer la transition agroécologique. On va y revenir sur ce film, on aura le temps. Mais avant tout, bonjour, bonsoir plutôt, il est 20h. Bonsoir Joël Labbé.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Ouais, je vais bien, merci, je suis content d'être là.
Vous avez exercé la fonction de sénateur du Morbihan pendant 12 ans, entre 2011 et 2023. Les pesticides, vous en avez fait votre combat durant votre mandat. Vous étiez également maire de Saint-Nolfe, dans la commune de Saint-Nolfe, dans le Morbihan. De 1995 à 2014, la chose qui vous a rendu, entre guillemets, si je peux me permettre, la plus connue, c'est la loi Labbé. La loi Labbé qui vise à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national en 2014. Et justement, en parlant de cette loi, j'aimerais que tout le monde puisse comprendre, puisse saisir, elle veut dire quoi concrètement cette loi et surtout qu'est-ce qu'elle va permettre ?
Ouais. D'abord, quand ils disent c'est le langage officiel produits phytosanitaires, c'est tout simplement les pesticides. Voilà, il faut appeler les choses par leur nom. Donc moi, je ne parle que de pesticides. Et alors, effectivement, dans l'histoire des pesticides, mon histoire avec les pesticides, très rapidement, j'ai été maire de Saint-Nolfe, donc j'étais un maire écolo, engagé déjà. Et on était avec mon équipe en démarche Agenda 21. On s'est mis rapidement en démarche Agenda 21 pour prendre en compte justement les questions du dérèglement climatique et puis de l'environnement. Et la première des grandes décisions que l'on a prise, qui était une décision coup de poing, on s'est interdit les pesticides sur l'ensemble des espaces publics de la commune. Donc gros débat, voilà. Et puis finalement, j'ai eu une majorité. Et donc on était à zéro pesticides sur la commune. Voilà. Et puis on a mené autre chose, une éco-cité, enfin, autant de sujets dans ce domaine-là, et où je m'éclatais bien, et avec l'équipe et avec la population, on avait mis en place une forme de culture du débat pour que les gens comprennent pourquoi on faisait ces choses et qu'on ait aussi les retours, les attentes de la population. Et ça, c'était super bien. Ensuite, 2011, s'annoncent les élections sénatoriales. Il se trouve qu'ayant été maire engagé, je participais au comité national de pilotage des agendas 21, celui des écocités. Et là, je me régalais en me disant, bon, à Saint-Nolfe, on fait ça, mais l'intérêt, ce n'est pas de faire pour faire, c'est que ça se développe un peu partout. Donc j'étais super intéressé. Et je crois que je passais plutôt bien au niveau du ministère de l'Environnement. Donc Et ça m'a fait un déclic par rapport à l'après, enfin, au-delà de la commune, on ne peut pas se limiter à ça. Et il y avait des élections sénatoriales. Parmi les écolos, on me dit, ça serait bien que ce soit toi qui représente les écolos. Et plutôt que d'aller en ordre dispersé, on est allé à trois, c'était trois à l'époque, et on était trois, donc une socialiste sortant, un communiste et un écolo, pour un département plutôt conservateur. Et il se trouve que suite aux élections, on a été élus tous les trois. Ce qui a fait basculer le Sénat à gauche pour la première fois de son histoire. C'était assez historique. Et donc je me retrouve au Sénat. Il y a le temps de l'euphorie, mais après il y a le boulot. Et moi je ne connaissais pas les codes, puis je ne voulais pas changer de style. Donc ce n'était pas simple et ça a été compliqué pour moi au début. Avec aussi des complexes d'infériorité, des gens qui me toisaient. Tout ça avec courtoisie, mais je sentais bien que j'étais pas à ma place et on me le montrait pour certains. Et puis, donc je cherchais ma place. Je me suis posé la question, est-ce que je dois rester parce que je suis pas fait pour être là? Jusqu'à un moment où il y a une mise en place d'une mission d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Mission d'information, c'est 6 mois de travail. pluripolitique. On était 27 de tous les partis politiques à proportion de l'importance du parti. Donc chez les écolos, comme on n'était pas nombreux, il y en avait un seul et c'était moi. Et donc j'ai suivi tous les travaux de cette mission. J'étais déjà sensibilisé. Mais ce que j'ai appris, ça a été énorme à la fois. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là les méfaits des pesticides, parce qu'on avait auditionné Jean-Marie Pelt, un certain nombre de scientifiques, aussi Jean-Marc Beaumatin du CNRS, le spécialiste de l'impact des pesticides néonicotinoïdes sur les abeilles. Là, c'est moi qui avais demandé à ce qu'on puisse l'entendre, parce que là aussi, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de liberté, en fait. Tu es sénateur, tu es élu, tu veux telle chose pour la mission, on ne peut pas te le refuser. Et donc, j'avais fait connaissance Jean-Marc bon matin, je leur dis, je souhaite qu'il soit auditionné. Il a fait une prestation extraordinaire, d'abord parce qu'il connaît son truc et il était convaincu. Il m'avait dit, il faudrait vraiment que tu fasses quelque chose là-dessus. Donc on avait vu l'impact sur les abeilles. Donc c'est les pesticides néonicotinoïdes qui refont l'actualité maintenant. Là.
Et on va y revenir dessus d'ailleurs.
Oui. Ouais. Ok. Et on a entendu des producteurs de pesticides, enfin les usines qui font les pesticides, des distributeurs, des agriculteurs, notamment FNSEA, qui utilisent les pesticides et qui disaient qu'il n'y avait pas de problème. Des agriculteurs aussi, notamment de la CONF et des agriculteurs bio, qui eux n'utilisent pas les pesticides et qui démontrent qu'on peut faire sans. C'est-à-dire qu'on avait vraiment tout le panel. Et d'un point de vue de la médecine et de la chirurgie, un certain nombre de spécialistes, dont une médecin cancérologue du CHU de Bordeaux, qui nous dit, voilà, moi je suis cancérologue, j'ai dû me spécialiser dans le cancer de la vessie, qui est le cancer du vivant, en lien direct avec les pesticides. On entend tous la même chose, là. Et aussi un chirurgien pédiatre de Lille qui dit, voilà, moi je suis chirurgien pédiatre, j'ai dû me spécialiser dans les malformations des nourrissons directement liées aux pesticides. Donc moi, à la fois, ça me confortait dans mes idées, mais j'étais effrayé de me dire, mais c'est quand même à ce point-là. Donc ça, c'était pour la santé humaine et pour l'environnement, donc la chute de la biodiversité, les qualités de l'eau, tout ça. Et donc, suite à une mission d'information, il y a un rapport qui est écrit et un rapport avec un certain nombre de recommandations. Donc moi, je découvrais tout ça et je me suis pris au jeu, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et quelques semaines avant la fin de la mission, il y a un administrateur du Sénat, ils sont tenus à l'obligation de réserve, il me tape sur l'épaule et me dit, monsieur le sénateur, je suis tenu à l'obligation de réserve, mais je vais être bientôt à la retraite, je voudrais vous dire une chose quand même, je n'ai pas le droit de vous le dire, mais je vous le dis, quand je vois l'intérêt que vous portez à ce sujet-là, eh bien, ce serait bien que cette fois, le rapport ne reste pas dans un placard. Il m'a extrêmement remué en me disant ça, tout simplement, et il m'a conforté.
Ça redonne confiance, en fait.
Oui. Au moins, je croyais que j'étais un peu, pas méprisé, mais pas pris au sérieux. Et ce mec, qui était une tronche, me dit ça, et là, ça me met vraiment en confiance. Et voilà, donc quelques semaines après, le rapport est présenté en séance. Et chacun des groupes politiques prend la parole. Et moi, j'étais là pour les écolos. Donc, je fais savoir que j'ai découvert. Et puis, je jouais cash. Je ne savais pas ce que c'était l'émission d'information. J'ai découvert ce que c'est vraiment des outils extraordinaires. Et puis, je ne vous connaissais pas, mes collègues. Là, on a bien travaillé ensemble. Et ça, j'ai apprécié de travailler comme ça. Tout allait bien. Puis, à la fin, je dis, mais par contre, tout ce qu'on a appris là, et on a tous entendu les mêmes choses, on ne peut pas rester les bras ballants, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, je vais vous faire une proposition, j'avais pensé ça juste la veille, je vais travailler sur une proposition de loi pour interdire les pesticides sur les espaces publics des communes et dans les jardins domestiques. Alors, les espaces publics des communes, je savais ce que c'était parce que je le pratiquais sur ma commune. Jardin domestique, j'avais des copains maraîchers et tout ça, qui est bio, et qui savaient qu'on... Voilà. Et j'annonce ça, et en disant, je comprendrais absolument pas qu'on ne trouve pas une majorité sur un sujet comme ça, où ça serait à désespérer de tout. Je m'adresse au ministre Le Foll, je dis la même chose, et le gouvernement ne pourrait pas donner un avis défavorable à une proposition comme celle-là. Je descends de la tribune, on me dit, bon Joël, t'es bien gentil, mais t'es bien utopiste. Ici, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas avoir l'Europe, tu vas avoir les lobbies. Mais bon, c'est bien que tu travailles là-dessus. T'as l'air de dire, bon, ça va t'occuper. Et je suis inteigneux. Je lâche pas, moi. Oui. Et donc, je me suis donné un an. je me suis dit, bon, il faut que j'y arrive. Et en plus, moi, il s'agissait aussi de me justifier à moi-même le pourquoi j'étais sénateur. Parce que, effectivement, je faisais des petits trucs, j'étais à l'écoute des gens et tout. Mais bouger les choses, j'en avais le besoin. Et ce sujet, je l'ai pris à bras le corps. Et puis voilà, je suis allé au bout. Donc Je me suis donné un an, oui. Alors j'ai eu après d'autres auditions, des gens qui sont venus spontanément vers moi pour dire voilà, la directrice des espaces verts de Versailles qui me dit voilà, nous on est à zéro pesticide depuis 2004 et ça marche à budget constant et tout. Ça me faisait une super alliée et donc elle a témoigné et tout ça. Je suis allé à Versailles, pardon. Et puis mais aussi botanique, la chaîne botanique de jardinerie. Il m'appelle, Stéphane Pernon, il m'appelle pour dire, voilà, vous travaillez là-dessus, c'est drôlement bien que vous le fassiez. Si vous avez besoin d'un coup de main, nous, dans notre société, on ne vend plus du tout de pesticides depuis 2008. Et là, c'était une aubaine parce que ceux qui venaient me dire, ben, les jardineries vont être plombées avec une loi pareille et tout. Et je lui disais, mais non, nous, on n'a pas de problème. Et voilà, donc j'ai eu des alliés spontanés comme ça qui ont été extrêmement, extrêmement intéressants. Mais pour le Sénat, il fallait trouver une majorité. On était 10 écolos sur 348. Donc trouver la majorité, il y avait toute la gauche qui suivait. Encore que c'était compliqué pour certains socialistes, mais ça c'est autre chose. Mais globalement, mais par contre tous les autres c'était hyper compliqué. Donc la majorité n'était pas du tout assurée. Et un par un, j'ai vu les membres de la mission qui étaient avec moi de tous les bords, et pour leur dire, mais alors j'ai proposé ça, je te l'ai annoncé, tu vas faire quoi toi? Alors, je te soutiens, pas de problème et tout. Alors, les autres qui étaient gênés, mais tu comprends, avec le parti politique, ça va, avec notre parti, ça va pas passer comme ça, on a des instructions et tout. Je dis, mais attends, c'est pas ton parti qui va voter, c'est toi. Et alors, il y a une personne qui me dit, bon, écoute, assez influente, moi, ce que je peux faire, c'est autour de moi, qu'il y ait un certain nombre d'abstentions, et comme ça, ça favorisera les votes pour. Et au final, on a pu avoir une majorité. Donc, c'était en 2014. La loi a été votée, donc elle s'appelle la loi Labbé. Et application 2017 pour les communes et 2019 pour les jardins. Elle fonctionne bien. Elle n'est pas remise en cause pour le moment. Ce qu'on va en parler tout à l'heure, il y a un certain nombre de remises en cause d'avancées qui assez graves qui sont en train de se mettre en place. Et donc, il y a lieu encore de se mobiliser. Donc, j'ai beau être non pas à la retraite, mais en liberté. Je ne vais pas lâcher comme ça. Je vais aussi essayer de jouer un rôle.
En février 2015, vous prenez la parole au Sénat devant tout le monde. Vous défendez à ce moment-là l'interdiction des néonicotinoïdes, tueurs d'abeilles. Suite à ça, vous enlevez votre cravate et vous dites cette phrase. Je ne la porterai plus. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce passage? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce geste qu'on peut qualifier de rébellion, de remise en cause? Et évidemment, quelles ont été les conséquences?
Alors juste l'histoire. Jean-Marc Bonmatin, donc chercheur au CNRS, spécialiste de l'impact des pesticides néonicotinoïdes sur les abeilles, suit le travail qui est mené. Prend contact avec moi, me disant, mais je vois que vous êtes au taquet là-dessus. Moi, j'ai une chose à vous présenter. Donc, c'était la démonstration de l'impact redoutable des néonicotinoïdes sur les abeilles. Et donc, on sympathise. Et puis, je dis, ça serait bien que tu sois entendu par la mission. Là, c'était donc avant. Et donc, il est entendu par la mission. Il fait une démonstration magistrale. Irréfutable de l'impact abominable des néonicotinoïdes sur les abeilles. Et donc, on décide d'écrire une résolution européenne. En deux mots, la résolution européenne, c'est le Parlement qui vote un texte pour demander à l'Union européenne, parce que la compétence est européenne, de se saisir de ce sujet. Donc, c'était la suppression des néonicotinoïdes pour préserver les abeilles. Et donc j'écris cette résolution. Et elle est soumise au vote en séance. Et moi, je crois que c'est de l'ordre de 15 minutes de présentation que j'avais. A priori, j'avais pas de majorité. Mais moi, encore naïf, je me disais, ouais, mais avec les arguments, je vais peut-être finir par les faire bouger. Après, j'ai su que c'était même pas la peine, c'était bloqué. Mais au fil du temps que je faisais un plaidoyer pour défendre ça, ça rigolait en face, en bas, à la droite, là, ils rigolaient, ils se foutaient de ma gueule de plus en plus. Et à un moment, ça m'a énervé. Et j'ai arrêté de parler. J'ai pris ma cravate, j'ai enlevé ma cravate. J'aurais dit, je suis écœuré par ce qui se passe ici. La cravate, je ne la mettais pas. Je l'ai mise parce qu'ici, ça fait partie des conventions. Mais là, je ne la mettrai plus. Voilà, et puis, je pars à ma place avec la cravate sur le dos et tout. Alors, tout le monde qui me regardait. Je m'assois sans la cravate. Et là, ça fait un gros bordel parce que normalement, les huissiers devaient venir me chercher pour me sortir. Et ils allaient le faire. Et la présidente, qui était Isabelle Debré, qui était une dame, une nana plutôt sympa. Enfin, j'ai des bonnes relations avec elle. Elle m'envoie un mot de sa tribune pour dire, Joël, si tu m'arrangerais, si tu mettais tu remettais ta cravate, parce que je vais être obligé de faire venir les huissiers. Alors, elle m'a eu par les sentiments, donc j'ai remis ma cravate dénouée. Voilà. Et en me disant, oh, putain, j'ai fait une grosse connerie là, parce que dans quel merdier je me suis mis, parce que je vais encore en prendre plein la gueule. Et en fait, ça a eu un déclic. Les journaux, évidemment, comme ils aiment bien les trucs, ils sont venus me voir, les médias. Et donc un sénateur rock'n'roll qui enlève sa cravate.
C'est symbolique un peu d'une part.
Ouais, oui, donc c'est gros cliché à la fois. Mais par contre, j'avais beaucoup de bonnes relations avec les journalistes. Et ils creusent ce qui... Alors derrière la cravate, il y avait les abeilles, il y avait les néonicotinoïdes. Et du coup, ils creusent ça. Personne n'avait entendu parler des néonicotinoïdes. Et ça prend une audience nationale, ce sujet-là. Et donc ça a permis de le mettre au grand jour. Et à cette époque-là, si on m'avait dit que deux ans après, même pas deux ans, un an et demi après, au Sénat, on aurait voté la suppression des pesticides néonicotinoïdes, je ne l'aurais jamais cru. Eh bien, ça s'est fait sous Ségolène Royal, qui était ministre de l'Environnement.
Ça veut
et donc
dire
c'était
quoi
une sacrée victoire.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Enfin, c'est quoi la morale de tout ça? Ça veut dire qu'on peut, même en n'y croyant pas, enfin en y croyant très peu, on peut faire passer des lois
Oui, alors d'abord, pour moi, c'était en y croyant plus que fort. Mais les autres, en généralement, tu rêves un peu là. La leçon de tout ça, c'est quand on y croit, dur comme fer, que la cause mérite d'être entendue, qu'on y croit dur comme fer, qu'on n'est pas... Alors, la réputation que j'ai, c'est de ne pas être à l'ouvrier. Je suis considéré comme plutôt clair, comme mec. Quand je ne suis pas content, je le dis. Quand je suis satisfait, je le dis aussi. Donc, j'avais cette réputation d'un mec plutôt gentil, par contre capable de s'énerver. Et du coup, je n'étais pas dans des postures politiciennes. Tout en gardant ma ligne de pensée, mes convictions, tout le monde le savait. Et il y a un autre aspect qui compte beaucoup pour moi, c'est la question de la stratégie, au sens noble du terme. Et la stratégie, moi, depuis que je suis élu maire et tout, j'ai adoré ça. Comment arriver à ses fins, à faire passer des choses, alors qu'il y a de l'adversité. Donc, travailler sur cette stratégie, ça m'a intéressé, ça continue de m'intéresser super bien. Par exemple, on s'est intéressé uniquement au secteur non agricole. On n'a pas touché l'agricole dans la loi. Alors certains disaient, ouais, mais non, mais c'est sur l'agriculture qu'il faut aller. Je dis, ouais, l'agriculture, il va falloir qu'on s'en occupe, mais si on veut faire passer une loi et mettre un pied dans la porte, c'est une petite loi qu'il faut faire. Et donc, c'est cranté. Et donc, ça a marché. Donc, la morale, c'est aussi, c'est possible.
Mais étape par étape.
Oui. Et là, c'est un petit domaine, mais dans plein de domaines, c'est possible. Il faut, enfin voilà.
Vous, comme je l'ai dit un peu plus tôt, vous étiez donc sénateur de 2011 à 2023. Ce qui m'en vient à la question suivante. Vous n'avez pas renouvelé votre mandat en 2023. Pourquoi avoir quitté la politique? Et surtout, qu'est-ce que vous faites depuis donc?
2023, je suis né en 1952. Donc 2023, j'avais 71 ans. Pendant tout un temps, j'y ai pas pensé. Donc j'étais au taquet sur mes sujets, donc je pensais pas à l'après, on verra bien. Seulement à un moment, un an et demi avant, j'ai eu un coup de fatigue d'une part. Je me suis dit, putain, je suis crevé là. Et ça m'a poussé à réfléchir. Et je me suis dit, bon, je fais quoi là? J'ai encore l'énergie, je pourrais continuer. Mais si je commence à 71 ans, j'aurai 77 à la fin. Donc c'était, déjà, ça ne l'allait pas. Et en plus, selon mes convictions, il faut aussi faire la place aux jeunes. Donc en restant après 71 ans, ça veut dire qu'on peut encore rester. C'est courant au Sénat. Mais est-ce que c'est ça la bonne façon de faire les choses? Donc je l'ai décidé que c'était non. C'était pas simple, mais je me suis préparé pour l'après, parce que je voulais pas me retrouver dans le vide et puis retraité là qui attend que ça se passe après. Donc ça, je voulais pas. Donc je me suis préparé pour la sortie et préparé pour faire autre chose et continuer ce que j'avais fait quand j'étais sénateur.
Il me semble que c'est à partir de vos 25 ans que vous avez commencé à entrer en politique.
Donc oui,
pour la
très
commune,
juste.
Commune de la mairie de Saint-Nolf.
Oui.
Qu'est-ce que vous retenez de toute cette vie de politique? Question très vaste.
Alors, j'imagine. Au moment où la politique n'a pas une très grande réputation, moi je pourrais. J'ai vu plein de choses. Maintenant. Malgré tout, encore, je considère la politique comme un art noble. Et il y a une belle définition de la politique qui a été donnée. La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Et pour moi, ça, c'est essentiel. C'est tout simple, mais c'est essentiel. Et donc, j'aime bien la clarté. Et là, on gagnerait en clarté. On est dans le bordel politique total, là. On a fait, il va bien falloir qu'on trouve des issues, non pas de secours, des véritables issues pour sortir la tête de l'eau. Là, on est mal parti pour le moment. Mais comme je suis optimiste, je me dis, bon, il va en sortir quelque chose. Et de toute façon, on est en fin de course de civilisation. Il faudra bien, forcément quelque chose va se présenter. Et là, aux gens lucides dont on fait partie, dont les jeunes font partie, une grande partie des jeunes, comment faire pour ensuite reconstruire? Et là, je pense à la jeunesse beaucoup, parce que j'ai 10 petits-enfants. Et la jeunesse, quand on est jeune, c'est bien de se projeter dans l'avenir, parce que, puisqu'on est jeune. Donc l'insouciance de la jeunesse qui peut se projeter dans l'avenir. Et là, cette génération de jeunes, c'est peut-être la première au monde qui se dit du fait dans quel état on a mis la planète. Mais nous, qu'est-ce qu'on va devenir dans tout ça? Et comment tu veux, à ton âge, te projeter Moi, la réponse, c'est il y a besoin de projets. Il y a le projet le plus magnifique que la planète n'ait jamais connu encore, c'est réussir à sauver la planète et à sauver l'histoire. Et là, je me dis, et là... Alors ça, c'est du déclaratif. Comment on s'organise pour ça? Moi, je pense que mobiliser, c'est essentiel. Donner, éduquer, cultiver, donner envie. Je suis écolo et je reste écolo définitivement. Mais comment réussir à faire distiller les idées pour faire avancer? Il y en a qui sont des donneurs de leçons. Les donneurs de leçons, c'est contre-productif complet. Moi, je prône la politique joyeuse, donner envie, rigoler, faire la fête aussi parce que ça fait partie de la vie, et plutôt que de tirer la gueule, et c'est pas en tirant la gueule que tu fais venir les gens. Moi, je pense ça et voilà. Et donc, je continue pour la deuxième partie de la question. Je suis plus élu, mais j'existe encore. J'ai de l'énergie, j'ai un passé, une histoire. Une expérience et bien continuer d'une autre manière à jouer un certain rôle. Et je trouve, là ça fait plus d'un an maintenant, j'ai trouvé la bonne formule. Je me déplace pas mal pour des conférences, pour des échanges sur tous ces sujets-là. Beaucoup de gens sont en attente et moi ça me plaît bien d'avoir ce genre de contact.
Et maintenant vous êtes libre. Je propose qu'on se tourne maintenant vers le film Zut, qui a été diffusé en ce début d'après-midi. Alors j'ai quelques questions, mais avant ça, est-ce que vous pourriez juste me faire un petit zoom sur quel est votre lien avec ce film?
Alors, il se trouve que quand il a été, il est passé à Bruxelles, enfin il est passé en ouverture à Bruxelles, ils ont voulu faire un débat autour du film. C'était peut-être pas le lancement. Il y a eu un moment, en tout cas, à Bruxelles, il y a eu le film, la projection du film, et puis ils ont voulu faire un débat de société par rapport à ça. Et comme j'étais identifié, on m'a demandé si je voulais bien venir participer à ce débat. Et c'était en Belgique, c'était à Bruxelles. J'adore la Belgique. Et donc j'y suis allé. Le film, je l'ai découvert. Je le trouve magnifique. Je le trouve alors que c'est des vieux, pétillant, plein d'humour et bien fait. Et mine de rien, il a un fort impact sur le pays qui est agréable à regarder, même si c'est flippant des fois. Mais et donc voilà. Donc ce film, je l'ai trouvé bien bien intéressant et que c'est justement drôlement important qu'il y ait des choses comme ça. Parce que sensibiliser les gens, c'est pareil, c'est pas avec que des grands discours. Montrer des petites expériences comme ça, avec un talent de cinéaste, avec des dialogues, avec des personnages qui sont attachants. Donc c'est comme ça qu'on avance aussi.
Ouais, justement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce film, il a pour but de nourrir la réflexion sur la nécessité d'accélérer la transition agroécologique, de montrer les effets néfastes et même dévastateurs à long terme des pesticides dans l'agriculture. Et justement, j'en viens à cette question pour qu'on puisse vraiment saisir les enjeux concrètement. Qu'est-ce qu'on risque de contracter avec ces pesticides et quels effets néfastes on va pouvoir engendrer?
Alors, il y a trois effets. Tout d'abord, il y a la réalité du règlement climatique. Les pratiques agricoles ont leur part de responsabilité. Je crois que c'est autour de 20% de responsabilité dans le dérèglement climatique. C'est une chose déjà essentielle. Ensuite, il y a l'impact sur l'environnement et la biodiversité. C'est catastrophique, la chute des populations d'insectes directement touchés par les pesticides. Mais les oiseaux insectivores, ils n'ont plus de nourriture. Et si la nourriture qui reste, elle est déjà empoisonnée, donc ils s'empoisonnent eux-mêmes. Et l'ensemble de la chaîne de vie environnementale est touchée. Et en particulier, on en parle peu, la flore microbienne du sol. Évidemment, elle est aussi touchée et elle joue un rôle essentiel dans la vie des sols et donc dans les cultures, dans tout ça. Donc c'est rien que ça, c'est déjà catastrophique. Mais sur l'environnement, l'impact sur l'eau, donc il y a plein d'actualités, toutes les semaines il y en a, et c'est toujours négatif. L'impact sur l'air pour la respiration, le sol, l'air, l'impact sur sur l'eau, je l'ai dit. Les pollinisateurs, donc la valeur économique des pollinisateurs, elle est inestimable. Et le fait de toucher les pollinisateurs, c'est tout un pan de l'économie qui tombe encore. Donc c'est faux dans tout, du début à la fin. On a beau dire que ça aide à faire pousser les plantes, les bio démontrent qu'on n'a pas besoin de ça pour faire pousser les plantes. Alors, est-ce qu'on a besoin d'avoir des super, super, super rendements toujours plus importants? Alors qu'on a plein de gaspillage de culture. Alors ça veut dire de toute façon remettre en question l'ensemble de la réflexion agricole d'une part et alimentaire d'autre part. Changer les modes alimentaires. Donc travailler là-dessus, tout ça, c'est absolument passionnant. Il devrait y avoir un travail énorme qui devrait être fait. Et le travail sur la bio. Quand j'apprends l'agence bio, on va l'enlever à coût trop cher, à moins de 3 millions d'euros. C'est scandaleux de dire ça. En fait, l'histoire de l'agriculture biologique, ça je l'ai vécu très souvent, elle dérange cette agriculture.
Pourquoi ?
Elle dérange. Mais par rapport au modèle agricole productiviste agrochimique, elle est dérangeante parce qu'elle démontre qu'on peut faire autrement. Et évidemment, leur système, eux, leur intérêt, c'est de le continuer. Et qu'il y ait un système à côté, vertueux, que la population demande. Si les gens, ils ont le choix entre prendre des produits bio ou des produits conventionnels, ils vont prendre des produits bio. Mais maintenant, il y a plein d'entraves qui sont mises. Une des dernières, c'est quelques années maintenant, le label HVE, haute valeur environnementale, qui a été mis, adopté par le gouvernement français sur proposition de la FNSEA. HVE, alors haute valeur environnementale, les gens ils voient ça sur les étiquettes, ils disent bon, haute valeur environnementale c'est le plus haut niveau ça forcément, et ben c'est que dalle quoi. Autant le label bio il est très exigeant, contrôlé, vérifié, Celui-là, il a très très peu d'exigences. Et alors, un certain nombre de producteurs qui seraient bien allés vers le bio, ils ont ce label-là. Bon, c'est pas la peine qu'on s'emmerde, puisqu'on a ça, voilà. Et ça, c'est pas fait d'une manière anodine. Et moi, je trouve ça dégueulasse. Comment ils font les pouvoirs-là?
Je reviens sur ma question de ce début, parce que vous avez dit on retient que le négatif et il n'y a que du négatif. Essayons de trouver du positif, justement. Quelles solutions on peut retrouver en dehors du pesticide? Est-ce qu'il y a des insectes, par exemple? Dans le film, on nous montre qu'il y a des alliés qui peuvent se manifester. Donc, il me semble que c'était des salamandres, pour le coup, là, dans le film. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, il y a les équilibres de la nature. Où il y a les chaînes de vie qui fonctionnent et d'une manière limite magique. Comment tout ça fonctionne aussi bien? Alors, le fait d'aller mettre de la chimie là-dedans, je fais court, hein, mais le fait d'aller mettre de la chimie là, qui tue un certain nombre de maillons de cette chaîne-là, c'est juste une catastrophe. Alors, si on veut parler positif, eh bien, d'abord préservons. Et travaillons et réhabilitons, parce qu'il y a encore des milieux qui peuvent être réhabilités, réhabilitons et travaillons en lien avec les éléments naturels. Mieux que ça, faisons-nous des alliés. Tu vois, il y a les auxiliaires de culture, par exemple, qui sont dans les bocagères et qui vont attaquer les pucerons quand ils vont arriver sur le champ. Mais ça suppose qu'il n'y ait pas des champs immenses. Ça suppose qu'il y a des parcelles plus petites avec des haies bocagères autour, tout ce qu'on a enlevé par le passé.
Donc là, on parle du démembrement, là ?
C'est
le remembrement.
Le remembrement, oui. Mais c'était un démembrement, en fait, oui.
En fait, oui.
Ouais. Et parce que les productivistes, ils disent, oui, on va aussi travailler avec la nature. Ils font maintenant des grands élevages de coccinelles ou d'autres insectes, mais ça existe pour les coccinelles, qui mangent des pucerons. Donc des élevages de coccinelles, et les producteurs, ils achètent des paquets de coccinelles, ils mettent ça sous leur serre pour tuer les pucerons. D'ailleurs, vous voyez, on prend pas de produits maintenant, c'est les coccinelles, c'est naturel et tout. Alors, c'est mieux que les produits, mais c'est pas des solutions, c'est toujours la fuite en avant. Les coccinelles jouent leur rôle naturellement si elles peuvent vivre. Et les coccinelles, comme d'autres insectes, et ces équilibres-là, ils sont magnifiques et ils sont à. Sauf qu'il y a des moments où il y a des crises, où il y a des attaques. Il faut prendre les mesures, sacrifier parfois une culture. Mais si on a uniquement de la culture uniforme sur des grandes parcelles, ben les ravageurs, quand ils arrivent dessus, ben ils te niquent la parcelle et là c'est niqué. Mais si tu as plusieurs parcelles, mais avec différentes cultures dessus, les unes à côté des autres, ok, il va y en avoir une année qui va être abîmée, il reste toujours les autres qui fonctionnent.
Qui sont séparés par des talus.
Absolument.
Absolument. Ouais. J'en viens à ma dernière question de cette interview. On en parle de ce film, donc il utilise énormément de noms, de termes, de différentes variétés de pesticides, glyphosate, acérotone. J'ai été perdu plus d'une fois dans ce film au niveau des noms, je l'avoue. Il vise un public en particulier ou bien on peut y venir en tant qu'amateur, en tant que tout public?
Oui, c'est vraiment un film tout public. Y compris pour des noms, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui étaient là, qui sont déjà convaincus, mais y compris, alors justement, des gens qui sont entre les deux, qui savent pas trop bien. Là, c'est le genre de film extrêmement pédago, qui est pas chiant, parce qu'il est bien fait. Il y a le nom des pesticides, ça fait un peu, mais c'est tout. Autrement, pour tout le reste, moi, je me dis, c'est vraiment un bon film, et il faut vraiment qu'il tourne, il faut vraiment qu'il soit vu. Et du coup, il va jouer son rôle.
Avec une petite pointe d'humour en plus. Donc je vous recommande de regarder ce film. Joël, merci beaucoup d'être venu et d'avoir pris le temps d'échanger avec moi sur Radio Méga. Je te dis au revoir et à la prochaine.
Ouais, un dernier mot sur l'humour belge, parce que c'est quelque chose, l'humour belge. Et la question de l'humour, la belle des définitions de l'humour, l'humour et la politesse du désespoir.
C'est beau. Merci
beaucoup. À bientôt. Au revoir.